Session d'introduction à la philosophie première par le père Philippe à Rimont, le 18 avril 1993, troisième cours.
J'espérais que les carrefours allaient supprimer les questions. Et je vois que ça les augmente. C'est bon signe. Parce que si on pose des questions, ça vaut que ça commence à entrer. Alors, il y a des quantités de questions. Je vous ai dit, la philosophie, c'est pas premièrement résoudre des problèmes. Mais c'est éveiller notre intelligence. Alors, je vais répondre très rapidement à quelques questions ici. Pourquoi le freudisme est-il une idéologie athée? Parce que Freud considère que la religion n'est pas quelque chose de naturel. Ça implique un refoulement. Regardez, le plan maître-esclave, maître et disciple, patron et ouvrier se retrouvent entre Dieu et l'homme qu'il adore. Mais au fond, Freud confond autorité et pouvoir, je crois. Il y a une confusion, c'est pas net. L'autorité, c'est un service. Que l'autorité soit très mal exercée la plupart du temps, je suis parfaitement d'accord. Puisque je dois l'exercer, je sais que j'exerce très mal. Et dès qu'on exerce un peu l'autorité, on s'aperçoit que c'est très difficile. Mais l'autorité est un service qui réclame l'obéissance dans une coopération et dans la même finalité. On fait œuvre commune quand on exerce l'autorité et quand on obéit. Donc il n'y a pas d'opposition dialectique. Tandis que le pouvoir implique une domination. Toujours. Le pouvoir doit être au service de l'autorité, et non pas l'autorité au service du pouvoir. Alors c'est la grande question, c'est à cause de ça. Freud ne reconnaît pas l'existence d'un Dieu personnel. Et pour lui, l'attitude religieuse est toujours une attitude qui conduit à une certaine infantilité. Il est très pardonnable, Freud, comme beaucoup de psychanalystes, parce qu'il ne voit que des malades. Il y avait en Suisse, j'oublie toujours son nom, mais ce freudien qui voulait être plus freudien que Freud. Comme il disait, un royaliste est plus royaliste que le roi. Et il habitait tout près de Neuchâtel. Il a écrit certains articles que j'ai lus. Il voulait supprimer le lien de la mère et de l'enfant. En disant que ce qui avait de plus terrible, c'était ce lien de la mère et de l'enfant. Parce que l'enfant était toute sa vie sous la domination de sa mère. Alors il voulait supprimer ça. Tous, entièrement pour lui, il ne croyait pas qu'il puisse y avoir un lien d'amour. Il avait dit qu'il avait lu, je crois, 10 000 lettres de fiancés et qu'il n'avait jamais vu la trace de l'amour. Alors on avait envie de lui dire, les vrais fiancés ne vous envoient pas de lettres. Vous envoie des lettres quand ça va pas. Donc c'est pas étonnant que vous n'avez eu gens qui s'aimaient vraiment envoyaient leurs lettres à ce freudien, ce super freudien. Alors, est-ce que vous condamnez la psychanalyse ? Non, je la condamne pas. J'ai connu des psychanalystes qui étaient vraiment des gens qui faisaient merveilleusement leur métier. Et qui les aidaient. Et c'est vrai que c'est très difficile d'être psychanalyste. Pour être un saint. Non, on ne peut pas la condamner, tout dépend comment on l'a fait. Il y a un art dans la psychanalyse. C'est pas uniquement appliquer une méthode. Si on applique une méthode, c'est très dangereux. Coûte que coûte. Alors quelquefois, on aime plus la méthode que le psychanalysé. C'est toujours la question que je pose aux psychanalystes. Aimez-vous plus la méthode ou le malade? Alors s'ils disent qu'ils aiment plus le malade que leur méthode, très bien. Parce que la méthode doit être souple. Il n'y a pas un malade qui se ressemble. L'individu est particulièrement marqué dans la maladie. La personne regarde la finalité. L'individu, c'est quelque chose de très, très unique, comme je vous disais. L'individu est unique. Et la maladie augmente le caractère individuel de chacun. Donc chaque malade, surtout malade angoissé, chaque malade est unique. Et donc on ne peut pas avoir une méthode commune pour tout ce qu'on applique. Je me souviens, dans mon dialogue avec les psychanalystes, ces psychanalystes me disaient qu'il y a toujours un moment où le malade qui est sur le divan, le psychanalysé, disons, parce que malade, oui, si on veut, c'est pas non plus nécessairement un malade. C'est quelqu'un qui veut mieux se connaître quelquefois. Paraît-il qu'il y a un moment, quand il est sur le divan, il pose la question, docteur, croyez-vous en l'homme ? C'est du reste très beau comme question. Au fond de son angoisse, croyez-vous en l'homme? Selon la méthode, on ne répond pas. Alors, quand ils m'ont dit ça, moi j'ai hurlé. C'est quand vous voyez quelqu'un qui est en train de se noyer, vous dites, vous avez pris les exercices pour nager. On se jette à l'eau pour le sauver. Alors à ce moment-là, ils sont retournés vers moi et m'ont dit, mais qu'est-ce que vous diriez? Je dirais, je crois en l'homme qui a un but dans sa vie. Quelqu'un qui a un but dans sa vie, c'est quelqu'un qui se dépasse. Un but à réaliser, une finalité, si vous voulez. Il y a une fin dans sa vie. Où il y a un amour. J'ai essayé d'expliquer. Évidemment, je n'aurais pas demandé si c'était d'accord. Parce qu'il ne faut jamais demander aux intellectuels s'ils sont d'accord. Je ne vous demanderai jamais, êtes-vous d'accord à ce que je vous dis? Non, 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 non. Jamais, jamais. Quand vous me dites que vous êtes d'accord, je dis très bien, merci, très bien, très bien. Mais non, c'est pas ça que je cherche. J'essaie de chercher avec vous la vérité. Et donc, j'espère que vous la cherchez avec moi. Donc, on est d'accord dans la recherche de la vérité. Ils sont d'accord avec ce que je vous dis. 6 mois après, un de ceux qui étaient là m'a dit, oh père, c'est extraordinaire ce que vous avez dit. Je dis quoi? Mais oui, vous vous souvenez, vous me rappelez. Je l'ai appliqué. Je savais très bien que je faisais une entorse à la méthode. Mais je me suis rappelé ce que vous avez dit. Il faut aimer le malade plus que la méthode. Il m'a posé la question, et j'ai dit ça, ce que vous avez dit. Et j'ai vu exactement ce que vous disiez. C'était comme si je lançais une bouée de sauvetage. Il a saisi ça, en disant, mais quel but ? Donc subitement, il s'est réveillé, alors qu'il était complètement... Alors il m'a dit, ça a fait avancer énormément. Et maintenant, dorénavant, je ferai toujours ça. Et je préciserai qu'il faut avoir un but dans sa vie. une finalité dans sa vie. Et que on ne peut être vraiment un homme, une personne humaine, que si on a un but dans sa vie. La recherche de la vérité. L'amour d'amitié. Voilà des grandes finalités. Sauver un pays qui est en train de naufrager. Au plan politique, ça peut se faire. C'est quand même un but. Vous voyez ? Est-ce qu'on se fait élire pour l'honneur ? Est-ce qu'on se fait élire pour le bien commun du pays ? Est-ce qu'on se fait élire pour être ministre ? Ou est-ce que c'est pour le bien commun du pays ? Si c'est pour le bien commun du pays, on s'en fiche de l'honneur. Et on sait prendre des décisions qu'il faut prendre. Même quand elles ne sont pas entièrement populaires. Tandis que si on pense toujours à ça, la future élection, on est dépendant des autres. C'est ce que disait Épictète au sénateur romain. Croyez que vous êtes libre, et pas du tout. Vous êtes dépendant de ceux qui élisent, qui vous élisent. Vous n'êtes pas libre du tout. C'est très actuel. Parce qu'Épictète avait été esclave. Donc il savait ce que c'est que la liberté. La liberté intérieure. En étant esclave, on peut être libre intérieur. Alors, autre question, vous voyez, cette question pour Freud, je réponds rapidement. Est-ce que l'âme peut se conditionner des relations, se peut conditionner des relations ? Est-il possible que l'âme se traumatise dans un certain milieu ? Par exemple, un camp de concentration. Donc l'âme est-elle relative à quelque chose ou à quelqu'un ? Oui, l'âme humaine va s'exprimer par le point de vue de la recherche de la vérité ou capacité d'aimer. L'intelligence et la volonté. Capacité d'aimer, capacité de découvrir la vérité. Dans la mesure où l'âme recherche la vérité, elle acquiert une autonomie dans cette recherche de la vérité. L'âme en elle-même doit acquérir son autonomie. On acquiert sa personnalité et sa personne. Quand vous voyez un petit gosse dans le berceau, dites « Oh, quelle admirable personne !» Ce qu'il est joli, ce qu'il est gentil, ce qu'il est merveilleux. Il ressemble à sa mère, il ressemble à son père, il ressemble au grand-oncle, et ainsi de suite. Vous voyez, la personne, notre personne, elle s'acquiert. Notre âme, nous la recevons, mais on doit l'éduquer. On doit l'éduquer. On a été éduqué par des parents. Et à un moment donné, on doit s'auto-éduquer. Et toute sa vie, on s'éduque. Et toute sa vie, on fait des dépassements par rapport à des tas de choses qui viennent s'arrêter. Des refoulements. Des oppositions. Donc on acquiert sa personnalité. Et sa propre personne humaine. On acquiert son autonomie par la recherche de la vérité. Vous êtes autonome dans la mesure où vous acquérez, dans la mesure où vous avez acquis telle, telle vérité dans tel, tel domaine. Quand vous ne savez pas où est la vérité, vous êtes dépendant des opinions. Alors, quelqu'un qui ne s'est pas du tout éduqué est dépendant de tout son milieu. Et c'est ce que terrible dans la télévision, c'est que vous augmentez la dépendance des gens. Ça, c'est vrai. On a un peuple qui, de plus en plus, est relatif aux médias. Alors qu'avant, il réfléchissait sur son expérience. Il n'allait peut-être pas très loin, il réfléchissait son expérience. Aujourd'hui, on est dépendant de sa télévision ou du journal qu'on reçoit. Qu'est-ce qui arrive à... Vous voyez, l'intelligence est discernée. Ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux. Ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire. Donc, l'âme humaine s'éduque du côté de l'amour, du côté de la liberté et du côté de la recherche de la vérité. Alors, est-il possible que l'âme se traumatise dans un certain milieu? C'est sûr. Vous pouvez très bien considérer que le milieu dans lequel vous êtes vous aliène et vous met dans un traumatisme perpétuel, vous n'arrivez pas à en sortir. Alors si vous voyez quelqu'un qui dans ce milieu est trop, et on voit ça très fort, quand on vit dans une communauté très resserrée, on peut être traumatisé par cette communauté. On n'a pas assez d'autonomie. Alors à ce moment-là, on doit être suffisamment intelligent pour demander conseil comment quitter ce milieu pour me fortifier. Je ne condamne pas ce milieu, mais il est trop fort pour moi. Il est trop exigeant pour moi. Mais ça se voit constamment dans la vie religieuse et dans le mariage. Pourquoi tant de divorces? J'avais épousé, elle était très très gentille. Très très gentille pour les fiançailles. Merveilleuse. Puis au bout de 5 ans de mariage, mais c'est un tyran. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un comme ça, c'est impossible. Elle était si gentille quand elle est. Hein, vous voyez. Puis ça se voit tout le temps, ça. C'est pas un quotidien. Et dans la vie religieuse, on ne peut pas prévoir d'avance ce que ça représente. Un climat de 30 moines habillés tous de la même façon. Si encore il y en avait un qui était blanc, l'autre rouge, il y avait un peu de variété, tous la même gueule. Mais ça augmente beaucoup. L'habit, l'uniforme augmente énormément. La quantité. Ça c'est évident. Ils sont tous rasés. Ça augmente ça. Alors, vite, vite, quittons ce gros milieu et puis prenons un petit milieu, vous voyez. Le milieu traumatique, pourquoi? On n'est pas assez fort. On n'a pas découvert suffisamment sa finalité. Si on avait découvert sa finalité propre, ça n'a pas d'importance. Il y a une armée derrière moi, ça m'est bien égal. Je suis devant. Si je suis devant, je ne vois pas. Tandis que si je suis derrière, il y a 100 devant moi. C'est impressionnant. Alors, comprenez ça intérieurement, pas matériellement, mais intérieurement. Si on a une finalité, un but qu'on recherche, on dépasse. La quantité, c'est la quantité. Alors je sais que c'est pas simple, c'est complexe, ça met du temps à acquérir vraiment une personne qui a son autonomie. Donc vous voyez, l'âme fait partie de la personne, et l'âme est source de l'acquisition de ma personne, de ma personnalité. Le corps fait part de la substance, oui, le corps est substantiel. La substance est source de l'être, oui. Pour le vivant, exister, c'est vivre, oui. Quand on meurt, le corps est toujours là. Mais quelque chose a changé, je comprends. Alors, substantiellement, c'est quelque chose a changé, radicalement. Alors, pourquoi considérer le corps substance. Très joli. C'est très vrai. C'est un problème énorme au plan philosophique. Les relations de l'âme et du corps. C'est très important puisque nous portons cette cette expérience constante. Alors, en quelques mots, je vous dis ce qu'il me semble. Ce qui me semble, ce que je crois être la vérité. On verra tout de suite, voyez, ça va, on va être tout de suite sur ce terrain. Après l'interrogation, qu'est-ce ? L'être. En quoi l'être ? Bon, cette question correspond à la découverte de la matière. Est-ce que la matière est un principe propre de l'être ? Averroès, Lénine le disent. Et on est en face d'un matérialisme historique avec Lénine, avec Marx. Autrement dit, tout être, du fait même qu'il est, implique la matière. Pourquoi ? Parce que nous avons vu que l'être comme tel est substance, principe de toute détermination. Ce qui a premier dans l'être, c'est la détermination. Or, la matière est puissance, capacité de changement, source de tout devenir. Et donc, la matière ne peut pas être un principe propre de l'être. Parce qu'il faudrait alors que l'être soit premièrement indéterminé. L'être, ce qui est, est déterminé. Mais la matière est source radicale de tout devenir. Vous voyez, donc la distinction de l'être et du devenir. La matière ne peut pas être principe de l'être, mais elle est principe du devenir. Alors vous voyez, cette chose très curieuse, c'est que l'âme humaine, mon âme, assume mon corps. Et grâce à l'âme, mon corps devient non pas un principe substantiel, mais devient mon conditionnement substantiel. La différence entre le principe propre et le conditionnement. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est pas commode, hein. Mais c'est très important. Le comment de mon âme, c'est mon individu. Je suis un individu. Et mon âme se promène grâce à mon corps. Je me promène. Et mon âme se promène. Mon âme spirituelle, elle ne se promène que grâce au corps. Mon âme a un conditionnement, une manière d'exister grâce à mon corps. La source de tout conditionnement, c'est le corps. Le corps n'est pas un principe propre d'être. Vous voyez, c'est un point très important. C'est une piste qu'il faut chercher. Quelles sont les relations entre l'âme et le corps ? Par l'âme, mon corps fait partie de ma substance. Mais comment mon corps fait-il partie de ma substance ? Il peut faire partie de ma substance de deux manières, ou comme un principe, ou comme le conditionnement substantiel. Mon corps n'est pas un principe propre d'être. Il existe grâce à l'âme. Ça va très loin, ça, de dire ça. Est-ce que vous comprenez alors que la science biologique qui ne touche pas découvre pas ne peut jamais vous donner un principe propre. Elle ne peut que vous donner que des dispositions, un conditionnement. Mon corps me conditionne substantiellement. Ça, c'est vrai, me conditionne substantiellement parce que quand je dors, je m'abandonne à mon corps. Je lui fais confiance. Ah, j'ai fait totale confiance quand je dors. Et je suis dans mon conditionnement, je suis dans mon cocon. C'est vrai, vous n'avez pas conscience de dormir. Vous êtes dans votre conditionnement. C'est pour ça que vous n'êtes pas responsable de ce que vous faites quand vous dormez. C'est votre corps. C'est extraordinaire, ça. Ça va très très loin de penser que mon corps, c'est mon conditionnement. C'est la source de tout mon conditionnement. Et donc de mes relations avec les autres. Mais ce n'est pas un principe propre. Toute ma vie morale relève de mon âme. Toutes mes responsabilités relèvent de mon âme. Et non pas de mon corps. Mon corps conditionne, limite mes responsabilités. J'ai un caractère de chien. Ça existe, ça. Il y a des gens qui ont des caractères de bouledogue. Qui puissent s'approcher d'eux, qui se mettent à aboyer. On ne l'a même pas touché. Mais ils aboient tout de suite. Ils montent leurs dents. C'est pas leur âme, c'est leur corps qui est comme ça. Ils ont peur. La sensibilité, l'âme est présente dans la sensibilité, l'âme est présente dans le corps, l'âme est présente dans toutes les passions. Quand vous dites que vous avez de mauvais caractère, c'est les passions. C'est quand vous domine l'irascible. Vous ne savez pas trop pourquoi, parce que vous avez un grand oncle et un brigand. On a tous dans notre atavisme un grand oncle qui était un brigand. Il a remonté il y a quelquefois 10 générations, mais il y avait un brigand. Et il revient en vous. Et vous n'en pouvez rien. Vous n'en pouvez rien. Et vous avez de temps en temps de vieux souvenirs de brigands. L'atavisme, c'est le corps. C'est pas l'âme. L'âme est créée directement par Dieu. Extraordinaire, ça, vous savez. Le corps, c'est la source de tout conditionnement. Alors, c'est merveilleux pour comprendre les similitudes, mais pour comprendre aussi les oppositions. Farouche. Donc, voyez, c'est ça qui est très délicat. Quand on dit ça, hein, le corps fait partie de la substance. Je ne dirais pas, le corps est assumé par la substance. Il ne fait pas partie de la substance, parce qu'il n'est pas substance. Il fait partie de ce tout qu'est la personne. Il est assumé par la substance, mon âme. Mais ce n'est pas une substance, mon corps. Il n'est pas un principe, il est le conditionnement matériel de ma personne. La substance est source de l'être, oui. L'âme. Pour le vivant, exister, c'est vivre. C'est juste. Mais c'est l'âme. Quand on meurt, le corps est toujours là, oui. Mais il n'est plus le corps vivant. Il est cadavre. Mais une substance ne meurt pas. Pour que le corps puisse être cadavre, il faut que le corps ne soit que le conditionnement de l'être. Autrement, il n'y aurait pas de mort. La mort éclaire beaucoup de choses. Il n'y a qu'à réfléchir là-dessus. Hein. Réfléchissez sur ce point de vue-là. La mort, séparation de l'âme et du corps, fait que mon corps devient cadavre. Si mon corps est cadavre, ça prouve que mon corps n'est pas un principe substantiel et qu'il n'est que le conditionnement. comment il serait un cadavre? Tout le monde admet que le corps est un cadavre. Et donc il peut être que le conditionnement, la manière d'être conditionnement, manière d'être substantielle, puisque c'est assumé dans ma substance là, et c'est uni dans l'unité d'être. Alors pourquoi considérer le corps comme substance? Il n'est pas substance, conditionnement de la substance. Alors, une question, la question de toute la session, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, je vais vous dire tout de suite ce que c'est que l'être. L'être est substance. Principe fondamental, il est substance. Principe selon la forme de ce qui est, il est substance. L'être est acte. C'est la finalité de l'être. L'être, dans l'homme, existe comme une personne, dans l'unité, assumant la complexité. Voilà ce que c'est que l'être. L'être concret, c'est mon individu. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que l'être a des significations analogiques. L'être est un terme, une expression analogique, c'est-à-dire qu'il a des expressions, des significations diverses, mais toujours dans l'unité. Or, qu'est-ce correspond à la vision? L'interrogation correspond à la vision. Vous ne trouvez pas cela un regard superficiel sur l'être? C'est évident, c'est pas la vision. Écoutez, j'ai dit qu'il y avait une correspondance. Mais vous comprenez bien que l'interrogation, c'est l'intelligence qui interroge. Et le regard voit ce qui est visible. L'intelligence est invisible. Vous n'avez jamais vu une intelligence. Moi non plus. Donc ne confondez pas le regard et l'intelligence. Mais mon regard est intelligent parce que j'ai une intelligence. Le regard de la vache. Est-ce que c'est intelligent? Première fois que la vache a vu un TGV. Elle s'est mise à l'écart. Donc elle était intelligente. Pour ne pas être écrasée. Donc voyez, faisons attention. Les sensations, c'est la première connaissance. Mon intelligence est conditionnée par mes sens. Mais mon intelligence n'est pas déterminé par mes sens. Mais toujours la même chose, le conditionnement et la détermination. La détermination, c'est un principe. Tandis que les sens conditionnent, mon imagination conditionne mon intelligence. Et quand l'imagination est trop fertile, mon intelligence est complètement éteinte. Alors là, il faut bien comprendre ça. Mais si vous avez trop d'images, vous n'arrivez plus à penser. C'est pour ça que la télévision, normalement, ne fait pas tellement penser. C'est les images successives. C'est comme le cinéma. Quelquefois, c'est très beau. Et là, ça peut faire penser. Mais quand je suis dans le jeu des images successives, je suis dans la quantité. Parce que toujours l'image est quantitative. Elle est très importante, l'image, et on la dépasse par l'intelligence. Et mon intelligence, c'est mon intelligence qui interroge, c'est pas mon regard, c'est pas ma vision qui interroge. Donc comprenons bien, je touche la réalité, je la vois, l'être, l'intelligence, seul saisit l'être. Mais ce qui est visible, est une modalité de l'être. mais ce n'est pas l'être. C'est une manière visible d'exister. C'est l'apparence. Mais ce n'est pas l'être dans ce qu'il y a de plus profond. C'est pour ça que je disais, l'intelligence, c'est lire de l'intérieur. Donc, c'est voir de l'intérieur. C'est ça l'intuition. On voit de l'intérieur via le regard extérieur. Alors, c'est évident, si je réduisais le point de vue de l'être uniquement à la vision, je dirais que c'est superficiel, tout à fait d'accord. C'est quand même très beau, la lumière. Quand vous regardez la lumière, c'est beau. Et ceci existe. Ça existe. La lumière fait l'unité de notre univers. C'est tout ce qui existe, la lumière. C'est une qualité visible. C'est une manière d'être. Mais ce n'est pas l'être. Alors ce qui m'intéresse, c'est de saisir ce que c'est que l'être. Oui. Et c'est pour ça qu'on a dépassé les qualités et la quantité pour découvrir la substance. La substance est au-delà des qualités, au-delà de la quantité, au-delà des relations, au-delà de l'action, au-delà de la passion. C'est la source cachée. Mais l'être est visible et invisible. C'est pour ça qu'il y a intériorité, extériorité. Mais l'être est premièrement invisible. Mon intelligence se manifeste par mes gestes. Mon intelligence se manifeste par la parole. Mais mon intelligence, ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas mon geste. Mais c'est la source de mon geste. Il y a des gestes intelligents. Il y a des paroles intelligentes. Il y a des regards intelligents. L'intelligence se manifeste par le regard, par le geste, par la parole. Elle se manifeste. C'est une manière pour mon intelligence de se transmettre. Mais ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence est source de la parole. L'intelligence est source du geste. Donc comprenez bien, visible et invisible. Et c'est vrai que toute philosophie fait la distinction entre le visible et l'invisible. Intérieur et extérieur. Âme et corps. Mon âme, je ne l'ai jamais vue. Et vous non plus. On vous dit à quelqu'un, oh, quelle belle âme. Oui, oui, oui. Vous ne l'avez jamais vue. Vous dites qu'elle est belle à cause de quoi? À cause de votre sourire. Quelle belle âme, il sourit comme un ange. On va encore y aller rapidement. Qu'est-ce que la vérité au plan philosophique? Ce que je dis correspond à la réalité. Et la réalité, pour le philosophe, en définitive, c'est toujours l'homme. Le philosophe, c'est celui qui cherche tout le temps à connaître ce qu'est l'homme, et à dire la vérité sur l'homme, et à exprimer ce que je pense sur l'homme, et qui correspond vraiment à la réalité. Pierre est un homme. Et ce que je dis de l'homme, je le retrouve dans Pierre, capable de rire. Quand je dis que l'homme, c'est un vivant spirituel, capable de rire, c'est une vérité. Et philosophique. C'est une vérité philosophique, ça. Quand je dis que l'homme a une certaine unité, quand je dis que l'homme est l'être le plus complexe qui soit au plan biologique de son corps, comme au plan de son esprit, c'est une vérité philosophique. Quand je dis que l'amour est capable de me permettre de me dépasser et de rejoindre mon bien, de rejoindre l'ami, de rejoindre la personne que j'aime, c'est une vérité philosophique. Quand je dis que la substance est source de toutes les déterminations qui se trouvent dans l'homme, c'est une vérité. des philosophies. Quand je dis que l'âme humaine est source de ma vie humaine, qu'elle est au point de départ de mon intelligence et de mon esprit, c'est une vérité philosophique. La vérité philosophique, c'est de voir que ce que je pense et ce que je dis correspond bien à la réalité existante, à Pierre qui existe. Y a-t-il différents niveaux de vérité ? Oui. Y a-t-il différentes vérités ? Oui. Il y a des niveaux de vérité. La vérité de la science biologique n'est pas la même que la vérité de la philosophie du vivant. La vérité du mathématicien n'est pas la même que la vérité du philosophe. La vérité en physique n'est pas la même que la vérité mathématique. Il y a des niveaux différents de vérité. Mais toute vérité, c'est l'adéquation à une mesure. Alors, quelle est la mesure de l'être mathématique ? Quelle est la mesure de la connaissance physique ? Quelle est la mesure de la connaissance biologique ? J'avais fait, il y a 2 ans, une session, donc de 5 jours, pas de 3 jours, de 5 jours sur la vérité. C'était très intéressant. Vous voyez, c'est très intéressant de comprendre tous les niveaux de vérité. Il y a une vérité morale, il y a une vérité artistique. La vérité artistique n'est pas la vérité philosophique. L'artiste doit être vrai. Il doit pas être un faiseur de mensonges. Il doit être vrai dans son art. Et vous voyez la vérité dans le portrait. Pas la vérité d'un photographe. Donc il faut bien comprendre cela. Alors il y a toute une variété énorme. Peut-on donner un fondement objectif à l'éthique ? Oui. Quel est le fondement objectif de l'éthique ? L'ami. C'est l'homme. Et l'homme, en tant qu'il est mon ami, puisque l'éthique commence avec la responsabilité. En dehors du point de vue moral, il n'y a pas de vérité. En dehors du point de vue moral, il n'y a pas de responsabilité. Venez, je vous donne ça rapidement, à toute vitesse, pour vous donner des pistes de recherche. Si vous êtes d'accord, dites-moi, c'est bien ça, je comprends. Si vous ne comprenez pas, cherchez. Pour montrer comment vous n'êtes pas d'accord. Autrement, ça ne vous sert à rien. Oui, dans tout enseignement, où on est d'accord, on n'est pas d'accord. Alors, si on est d'accord, on dit oui, c'est bien, c'est vrai, c'est ça que j'ai compris. Si on n'est pas d'accord, on se dit mais pourquoi je ne suis pas d'accord ? Si vous ne réfléchissez pas, vous n'avancez pas. Alors vous êtes stagnant, immobile. Intellectuellement, vous dormez. C'est quand même très important de comprendre ça. Si on veut faire un tout petit peu de philosophie, il faut être éveillé dans son intelligence. Et on sent tout dans un coup. C'est terrible. Je pourrais dire, là, il dort. Là, il est éveillé. Là, je vois tout de suite ceux qui dorment. Tout de suite. Parce qu'ils disent non. Passe, mon vieux. Alors, si j'étais farouche, je disais, sortez, parce que vous alourdissez. Vous êtes quantitatif. Ceux qui suivent rendent le climat léger. Ceux qui ne suivent pas rendent le climat lourd. Quantitatif. Quelqu'un qui ne pense pas, il est dans son corps. Alors il pèse 50 kilos, 60 kilos, 70 kilos. Alors quand ils sont 50, c'est lourd. Tous ceux qui ont enseigné savent très bien ça. On saisit tout de suite, ça c'est terrible l'enseignement à cause de ça. Si on est sensible à son milieu, parce qu'évidemment on peut enseigner en lisant un texte universel et éternel. Alors à ce moment-là, très bien, un texte, c'est pas un un enseignement. Un enseignement, c'est d'être en face de quelqu'un qui vit ce qu'il dit. Et alors à ce moment-là, il est terriblement sensible. Il voit tout de suite si c'est reçu ou si c'est pas reçu. C'est pour ça que de temps en temps, l'irascible monte. Ça peut pas être autrement. Parce que, vous savez, c'est la fameuse chose qu'on disait de Sartre. Il enseignait, il faisait une conférence. Puis il dépassait l'heure, parce qu'il dépassait l'heure, c'est la fin de sa vie. Alors les gens partaient, je comprends, au bout d'une heure, pas. Ils partaient tous. Alors il y a le dernier qui restait. Il était seul. Alors il s'est posé le problème, dois-je avertir Sartre que je m'en vais et qu'il n'y a plus personne. C'est réel, hein, c'est pas de la blague. Ça s'est passé comme ça. Alors il s'est dit, c'est plus miséricordieux de l'avertir. Alors il a l'avertir, il dit, je suis obligé de partir et je suis le dernier. C'est vrai qu'il faut mieux, autant que possible, regarder son auditoire et voir si ça suit ou ça suit pas. Pourquoi l'habitus, dixième catégorie, est-il propre à l'homme? Parce que c'est l'usage. Un animal n'use pas parce qu'il n'y a pas d'acte moral. C'est la volonté. Un animal vit de l'instinct. Pourquoi une vache broute prend-elle de l'herbe? C'est son instinct. Pourquoi elle s'arrête et elle se couche? C'est son instinct. Absolument aucun complexe. L'animal le privilège n'est pas votre complexe. Il paraît que les poules, cet instinct tout à fait, peuvent avoir des petits complexes. Pareil, pareil. Parce que si elles sont très bien soignées, vous voyez, parce qu'alors à ce moment-là, elles participent à la maison, à l'aspect domestique. Et dans la mesure où elles participent à la soignée, il y a une répercussion des complexes du maître sur elles. Alors, il y a des petits complexes particuliers. Où se situe le dépassement de la substance première et de la substance seconde? Oui, ça c'est très... J'ai dit rapidement ça. Substance première et substance seconde, ça fait partie des catégories. C'est donc à un niveau descriptif, presque logique, au niveau de l'attribution. Le nom et l'attribut. Donc c'est logique. Dès que je saisis la substance comme ce qui permet de comprendre la substance première et la substance seconde, pierre, homme, je suis à un niveau métaphysique de l'être. C'est ça l'induction. Je suis passé de l'aspect descriptif, parce que je peux décrire l'individu, et homme, j'ai l'expérience de ma connaissance de l'homme. Connaissance universelle, l'homme. Connaissance logique. J'ai l'expérience de cette connaissance. Donc, ces deux connaissances-là, Pierre et homme, je les connais. Je ne saisis pas l'intelligence, la substance comme principe. Si les neuf prédicaments sont attribués à la substance seconde et celle-ci à la substance première, il suffit que la substance soit le sujet des attributs. Oui, comme sujet. Mais comme sujet, elle n'est pas ce qui rend raison de l'attribut. Puisque le sujet, par définition, est déterminé par l'attribut. C'est pas le sujet qui détermine l'attribut. Tandis que la substance est source de toutes les déterminations. Ah, c'est pas commode de saisir la substance. Hein. Vous voyez au moins la voie d'accès. Et si vous réfléchissez, mais il faut du temps. C'est-à-dire, on ne devient pas métaphysicien, philosophe de la philosophie première, comme ça, du premier coup. Il faut du temps. Notre intelligence, on comprend que ça existe, c'est déjà beaucoup. Qu'il y a une connaissance profonde qui se fait de plus en plus. La connaissance de mon âme. C'est plus facile, la connaissance de l'âme, parce que j'ai une expérience de mon intériorité. Alors, je peux avoir cette connaissance de mon âme, mais la connaissance de la substance, je n'ai pas de connaissance directe. Seule l'intelligence au-delà des qualités, au-delà de la quantité, au-delà du situs, au-delà des neuf prédicaments, des dix prédicaments, saisit la substance. C'est un au-delà, un dépassement. Alors, la question en quoi l'être, la matière, rien. Ça, je voudrais beaucoup que vous arriviez à le comprendre. Qu'il n'y a pas de principe propre qui soit matière au niveau de l'être. Ça ne veut pas dire que tout être est spirituel. Ça veut dire que l'être est au-dessus de la distinction matière et esprit. La distinction corps et âme est dépassée par le point de vue de l'être et de la substance. La distinction entre matière et esprit est une distinction qui est dépassée par l'être. L'être peut exister dans la matière. L'être peut exister dans l'esprit. C'est quand même très important de comprendre que l'être est au-dessus de la distinction matière et esprit. Et c'est là où vous touchez ce que c'est que l'être. Puisque vous avez l'expérience d'un être matériel. Tous les jours, en écrivant, vous avez l'expérience de... Vous avez l'expérience de la fatigue. C'est l'expérience de l'être matériel. Seul un être matériel est fatigué. Mon esprit n'est jamais fatigué. Si vous étiez plus spirituel, vous seriez moins fatigué. Ah, ça, c'est sûr. Je vous donne un truc pour être moins fatigué. Quoi. Soyez plus spirituel. Parce que plus votre esprit est esprit, plus il porte votre âme. C'est l'âme qui porte le corps. C'est pas le corps qui porte l'âme. Vous comprenez? C'est l'âme qui porte le corps. C'est l'âme qui permet au corps de se mouvoir. Et donc c'est l'âme qui rend le corps spirituel. Ah, vous commencez à comprendre comment il peut y avoir un moment dans la ce que la foi nous révèle, une glorification du corps. C'est par l'âme. Et ça, c'est vrai de comprendre que la distinction matière et forme est dépassée par l'être. Or, l'être est premièrement substance, source de toute détermination. Si l'être est premièrement substance, source de toute détermination, l'être est du côté de l'esprit et secondairement du côté de la matière. La matière, c'est toujours du point de vue de l'être quelque chose de second. Mais qui peut être substantiel pour le conditionnement? C'est ça la difficulté. Mais on peut le comprendre, c'est pas du tout impossible à comprendre. Vous pouvez très bien arriver à comprendre que votre corps vous conditionne. Il prend une place, que voulez-vous? Votre esprit, si vraiment vous comprenez ce que c'est que votre esprit, vous comprenez que votre esprit n'est pas localisé. Vous pouvez penser à ce moment-là quelqu'un qui est à New York. Vous pouvez penser quelqu'un qui est très loin de vous. Et le lien spirituel est au-delà de l'espace et du temps. Or, l'espace et le temps, c'est mon corps. Je suis dans un monde où il y a l'espace et le temps. Alors, maintenant, ce qui est beaucoup plus délicat, lorsque je pose la question d'où la cause efficiente, eh bien, je dis, et ça c'est très important aussi à saisir, qu'il n'y a pas de cause propre efficiente de l'être. L'être, il est. Puisque il n'est pas ce qui devient. Donc il est. L'être est présent dans le devenir, mais l'être n'est pas le devenir. Si l'être n'est pas le devenir et que l'origine est toujours à la source d'un devenir, quand vous faites l'exégèse des commencements, vous faites l'exégèse du devenir, et vous ne faites pas l'exégèse de l'être. L'être comme tel ne devient pas. C'est très intéressant, ça. C'est la question qu'il faut poser aux exégètes des commencements. Il n'y a pas de principe propre causalité efficiente à l'égard de ce qui est, est. C'est la grande intuition de Parménide que Heidegger aime tellement. C'est la grande intuition. Il est. Il est, il est au-delà du devenir. Alors, après, en vue de quoi? Alors, c'est là la seconde grande recherche de la métaphysique. Ça, vous voyez, comme la métaphysique est simple, il n'y a la découverte que deux principes propres de l'être. En vue de quoi? La finalité. Quelle est la fin de l'être? L'être est finalisé par lui-même parce qu'il est. La finalité de l'être. La finalité de l'être, nous allons le voir, pas maintenant, mais c'est la seconde grande induction. La finalité de l'être, c'est il est en acte. C'est la fin de l'être, l'être en acte, qui se distingue de l'être en puissance. Deux grandes divisions de l'être. Ça, quand on pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Il faut l'analyser. Et en l'analysant, on le divise. On divise l'être substance, accident, l'être en acte, l'être en puissance. Mais vous voyez que je découvre l'être en acte par l'interrogation. Dans toute induction, c'est l'interrogation qui est l'âme de l'induction. Il ne faut jamais l'oublier. C'est ça qui donne le dynamisme propre de l'induction. Si vous n'interrogez pas, vous ne découvrez rien. C'est dans ce sens-là, voyez-vous, c'est très joli la parole de l'Évangile. Si vous devenez comme des petits enfants, le petit enfant interroge tout le temps. Il interroge tellement qu'il est agaçant. Il interroge tout le temps. Les grandes personnes n'interrogent plus. Pourquoi elles n'interrogent plus? Elles ont peur d'être bêtes. Elles n'interrogent pas. Elles ont peur de paraître, de ne pas connaître. Parce que quand vous interrogez, vous ne savez pas. Vous avouez que vous ne savez pas. Et vous voulez progresser. Alors interroger, c'est redevenir comme celui qui accepte qu'il doit progresser. Accepter qu'on doit progresser, c'est accepter de grandir. Accepter qu'on a l'intelligence peut grandir à l'infini. Je peux toujours aller plus loin, en pénétration et en extension. Toujours. Personne d'entre nous n'oserait dire, je connais tout. Non. J'ai pénétré très loin dans l'être, pas du tout. réussir à aller plus loin. C'est le propre de la découverte d'un principe, puisque la découverte d'une source. Ce au-delà de quoi je ne peux pas aller. Alors, l'interrogation en vue de quoi est l'être, c'est pas commode à bien comprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui finalise l'être? Quelle est la fin de l'être? De ce qui est? Quelle est la fin de ce qui est? Alors, ce qui est très intéressant à voir, c'est que historiquement, je dis bien historiquement, la scolastique dite thomiste, dite réaliste, a laissé tomber très vite ça. Et Don Scott, le bienheureux Don Scott, puisqu'il vient d'être béatifié, le bienheureux Don Scott est celui qui a mis dans le puits la recherche en vue de quoi l'être. Il a dit que la causalité finale était métaphorique, donc elle n'est pas scientifique. C'est une projection imaginative sur l'être. Et à partir de Don Scott, la métaphysique n'a plus cherché ce en vue de quoi l'être. C'est terrible ça. On a tout ramené à ça. Et comme on a tout ramené à ça, très vite, on est tombé dans un formalisme logique. Et la scolastique décadente est devenue une logique. Parce qu'on a laissé tomber le point de vue de la finalité. Donc on doit la redécouvrir aujourd'hui. C'est très très important si vous ne découvrez pas en vue de quoi ce qui est est. Vous n'allez pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait la perfection de ce qui est en tant qu'il est? Qu'est-ce qui fait que l'être, à un moment donné, est parfaitement lui-même? Il est parfaitement lui-même quand il est en acte. Tant qu'il est en puissance, il peut progresser. Il peut grandir. C'est une semence de l'être. Tandis que quand il est parfait, il atteint son sommet. L'être en acte. Alors, il faut découvrir cela par la seconde voie inductive. Donc, première voie inductive, deuxième voie inductive. Il y a deux principes propres de ce qui est en tant qu'il est. Selon la forme, la substance. Selon la fin, l'être en acte. Donc, vous voyez, c'est une simplicité remarquable, la philosophie première. C'est purement qualitatif. C'est la corde raide. C'est magnifique au point de vue de l'intelligence. Saisir la source selon la forme de ce qui est, la substance. Saisir l'être parfait. Mais l'être parfait, comprenez bien, c'est pas du tout la réalisation de l'être. C'est l'être en tant qu'il est.